France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un grand serviteur de l'État, un grand commis de l'État comme on dit. Un homme qui il y a plus de 40 ans a décidé de servir son pays au plus haut niveau en se consacrant notamment au bon fonctionnement de certaines de ses institutions les plus prestigieuses. C'est ainsi qu'il a été secrétaire général du gouvernement pendant 11 ans après être passé par la place Beauvau et la place Vendôme. Il est ensuite devenu vice-président du Conseil d'État jusqu'au moment où l'heure de la retraite a sonné. Il y a un petit peu plus d'un an. Retraite, une façon de parler, car Jean-Marc Sauvé est désormais président de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il nous dira d'ailleurs, pour commencer cette émission, où en est le travail de cette commission qui a déjà reçu 2000 appels depuis sa mise en place, et ce n'est sans doute qu'un début. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marion Lelay, l'actualité de la semaine, mise en onde comme tous les vendredis par Céline Hilla. On entendra d'ailleurs avec intérêt l'analyse de Jean-Marc Sauvé à ce sujet, car il y a eu beaucoup de critiques ces derniers jours sur la justice et son fonctionnement. Son éclairage nous sera précieux sur ce sujet et sur le reste. On parlera évidemment aussi de son parcours, pas banal, car ce fils d'agriculteur a réussi à deux reprises le concours de l'ENA après avoir été tenté de rentrer dans les ordres. Comme tous les vendredis, les bonnes ondes de Sandrine Houdin également. Ce soir, à la veille des journées du patrimoine, nous irons faire un tour sous l'église de la Madeleine à Paris, où tous les jours à midi, le foyer de la Madeleine sert des repas à des prix défiant toute concurrence. À 19h20 au téléphone sonne, un débat sur la privatisation d'aéroports de Paris. Débat sur le débat également, puisque vous le savez, certains réclament un référendum à ce sujet. Alors si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servagent. Une semaine en France.
Bonsoir Jean-Marc Sauvé.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, merci d'être avec nous. Vous êtes donc à la tête de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, commission chargée de faire la lumière sur les abus sexuels commis sur les mineurs et les personnes vulnérables depuis les années 50. Commission, faut-il le rappeler, mise en place à la demande des évêques de France. En juin dernier, vous aviez lancé un appel à témoignages pour que les victimes se fassent connaître. Visiblement, vous avez été entendu.
Oui, nous avons déjà reçu, à l'heure à laquelle nous parlons, plus de 2000 témoignages, peut-être même 2200 à la fin de cette semaine. C'est très important, c'est très important. C'est sans doute en deçà de la réalité des abus sexuels qui se sont produits au sein de l'Église catholique pendant 70 ans, c'est-à-dire depuis le début des années 50. Et non seulement nous avons reçu des appels, nous avons reçu des témoignages, mais beaucoup de personnes qui se sont tournées vers nous ont voulu répondre à un questionnaire très très complet. C'est un questionnaire qui comprend entre 40 et 50 questions avec des zones d'expression libres. Et nous avons été très surpris du nombre des retours, de la rapidité des retours, de la complétude des réponses, c'est-à-dire que toutes les questions reçoivent des réponses et les zones d'expression libres, eh bien, les victimes parlent.
Il y a besoin de parler.
Voilà, il y a un vrai besoin de parler. Ce que révèle cet appel à témoignage, c'est l'existence d'une souffrance profonde, de traumatismes qui, pendant très longtemps, n'ont pas pu s'exprimer. Y compris, d'ailleurs, vis-à-vis des parents des victimes, y compris même, dans certains cas, pour des personnes qui ensuite se sont mariées, se sont insérées professionnellement, socialement, vis-à-vis du conjoint. C'est-à-dire que certaines personnes se tournent vers nous en nous faisant l'aveu que leur conjoint ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et pourtant, on sent très vite la souffrance qui est sous-jacente à ces témoignages.
C'est salutaire d'avoir mis en place cette commission ?
Je pense que c'est salutaire à la fois. Il faut permettre aux victimes de s'exprimer. Certaines ont fait des démarches personnelles, mais d'autres n'ont pas parlé. Et je crois qu'il faut que nous offrions et nous offrons un espace d'expression. Ça, c'est très important. Et puis, au-delà de cette écoute personnelle, individuelle des victimes, il y a quelque chose de plus scientifique ou de plus technocratique qui est en cause. Il s'agit de mesurer ce qu'ont été les abus sexuels pendant 70 ans. Les mesurer quantitativement, qualitativement, analyser le contexte dans lequel ils se sont produits, ce qu'ont été les causes, comment ils ont été traités ou pas traités. Et donc, il y a une démarche à la fois personnelle, en direction des victimes, et en même temps une démarche d'inventaire, une démarche presque scientifique, qui apparaîtra abstraite, désincarnée, mais qui est extrêmement importante pour nous permettre ensuite de formuler des recommandations.
C'était d'ailleurs votre lettre de mission. Jean-Marc Sauvé, est-ce qu'on peut parler d'un profil type de victime ou pas, d'après les appels que vous recevez ?
Nous avons un échantillon qui est peut-être représentatif, mais qui ne l'est pas à coup sûr. Et donc, il est difficile de s'exprimer avec une grande certitude scientifique. Ce qui ressort à l'heure actuelle, c'est que les témoignages émanent en majorité, en forte majorité, de personnes de plus de 50 ans. Donc, ce sont des personnes qui ont subi des abus il y a 30, 40, 50, 60 ans. Moi, le témoignage le plus ancien que j'ai lu, c'est une personne qui aujourd'hui a 88 ans et qui a raconté ce qui lui est arrivé dans un pensionnat catholique. C'était à l'époque de l'occupation. Alors on va nous dire, mais c'est avant même 1950, le point de départ de votre étude. Mais on voit bien qu'on recueille des éléments très anciens.
D'hommes et de femmes ?
Oui, d'hommes, majoritairement d'hommes. Il y a 2/3 de témoignages pour le moment qui émanent d'hommes, 1/3 de femmes. Par rapport aux prévisions des sociologues, des psychiatres, le pourcentage de femmes, quoique minoritaire, est regardé comme important. Et donc, on peut se poser la question de savoir si la parole ne se libère pas plus rapidement du côté des femmes que du côté des hommes. Si, comme les scientifiques le pensent, il y a eu plus d'abus sur des garçons que sur des filles.
Ces témoignages, Jean-Marc Sauvé, ils arrivent d'où ? De partout en France ?
Alors, ces témoignages arrivent de l'ensemble du territoire national. Bien sûr, il y a une surreprésentation des métropoles, des grandes villes. Et on voit bien aussi que les départements dans lesquels l'Église catholique
a une
influence importante, ces départements sont surreprésentés dans notre échantillon actuel. Je pense en particulier au département de l'Ouest au sens large, c'est-à-dire Bretagne, Pays de la Loire, sans que, à ce stade, on puisse établir une corrélation absolue entre la présence forte de l'Église et l'importance des abus.
Et est-ce qu'il y a par exemple des diocèses qui peuvent être pointés du doigt ? J'aime pas bien cette expression, mais d'où remontent quand même un certain nombre de témoignages ?
Pour le moment, ça correspond pour l'essentiel aux zones urbaines, c'est-à-dire, on va dire, Paris, Lyon, Marseille, et le Nord, le département du Nord, je voudrais le rappeler, le département le plus peuplé. Alors, comme j'y ai fait mes études, je le connais un peu mieux, mais le Nord est un département qui est plus peuplé que Paris.
Alors, Jean-Marc Sauvé, vous nous avez expliqué qu'il s'agissait avant tout de faire un état des lieux, mais évidemment, il s'agit de faits graves, d'infractions pénales aussi. Alors, la grande question, c'est de savoir quoi faire de ces témoignages. Est-ce qu'il va y avoir des signalements au parquet ? Est-ce que c'est prévu ? Et est-ce que ça se fera avec l'accord des personnes qui témoignent ou pas ?
Alors, bon, il faut bien voir que la grande majorité des témoignages que nous recevons ne laissent guère de doute sur l'authenticité, la gravité de ce qui s'est passé. Et naturellement, la commission n'a pas été instituée pour provoquer des poursuites pénales. Nous ne sommes pas des juges, mais la loi s'applique à tout le monde dans ce pays. On y reviendra peut-être ce soir. Et la loi s'applique aussi à la commission indépendante sur les abus sexuels que je préside. Et la loi nous fait obligation. La loi nous fait obligation de dénoncer des crimes et des délits commis à l'égard de mineurs et de personnes vulnérables. Alors même que ces mineurs seraient devenus majeurs et peuvent eux-mêmes faire des démarches et porter plainte. Et donc c'est la raison pour laquelle, en l'absence même de plainte des victimes, nous sommes conduits et nous allons être conduits à faire des signalements au parquet et à informer dans la foulée l'Église catholique, parce que dès lors que les prêtres ou les religieux soupçonnés sont encore en vie, il faut aussi prendre des mesures conservatoires à leur égard, et notamment les écarter de tout ministère en relation avec des jeunes ou des personnes vulnérables.
D'ailleurs, il y a eu la semaine dernière un accord annoncé entre l'archevêché de Paris et le procureur de Paris, justement, pour pouvoir signaler ces violences et à la justice. Hein,
vous... Exactement, et cet accord est bien en ligne et en cohérence, enfin, dès lors qu'il a été signé par le procureur de la République de Paris, on s'en doute, mais avec les obligations pénales qui pèsent sur les autorités qui ont connaissance d'abus. Ça a été la même chose. Il y a eu un protocole qui a été signé entre le recteur de Paris et le procureur. C'est-à-dire, en l'absence même de plainte de victime, les personnes qui ont connaissance d'abus, eh bien, doivent les signaler.
Alors, Jean-Marc Sauvé, il y a ces témoignages qui vous arrivent. Il est aussi prévu dans votre lettre, dans votre ordre de mission, un travail concernant les archives de la justice, mais aussi les archives de l'Église. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que l'Église est coopérative par rapport à ce travail jusqu'à présent?
Alors, nous avons lancé un très, très important travail d'inventaire des archives civiles, dans les archives nationales. Nous allons également avoir un inventaire qui va être engagé dans les archives de la justice, dans les palais de justice.
Et même du côté de l'aide sociale à l'enfance,
hein, j'ai vu ça. Exactement, et nous intéresserons aux archives départementales. C'est un travail très très important qui va également se prolonger avec une exploration des archives de la presse. Donc un inventaire des sources documentaires et ensuite, par sondage, eh bien, des plongées en profondeur.
L'Église de Jean-Marc Sauvé, elle coopère ou pas?
Alors, l'Église a reçu de ma part un questionnaire pour faire l'inventaire des archives de l'Église. Ce questionnaire, je l'ai envoyé le 31 mai. Oui. Donc, nous attendons les réponses pour la fin du mois de septembre, le mois d'octobre. Et on a déjà reçu les réponses de 19 diocèses sur 115. Mais vous savez, il est très rare quand on diffuse des questionnaires que beaucoup de réponses arrivent très à l'avance. Mais déjà 19 sur 115. Et puis 26 congrégations féminines et 24 congrégations masculines ont déjà répondu. Et lorsque nous aurons l'état des lieux, eh bien, nous allons engager là aussi un travail de déplacement et d'investigation avec des chercheurs de l'école pratique des hautes études.
Voilà. Poursuivre.
On se déplacera dans les diocèses, dans les congrégations.
Une sorte de tour de France, c'est ça?
On se déplacera aussi dans les archives centrales de l'Église catholique, qu'on appelle les archives de l'entraide sacerdotale. Ça, c'est pour les archives. Par ailleurs, la commission va, mais pour faire connaître son appel à témoignage, comme on le fait ce soir, mais la commission va se déplacer sur le territoire. Ça n'est pas, le siège est à Paris, mais nous ne sommes pas des Parisiens et nous ne travaillons pas pour les Parisiens et les Franciliens. Et donc, nous allons, dans les semaines et les mois qui viennent, d'abord visiter les 6 plus grandes métropoles régionales pour expliquer notre travail, pour expliquer aussi nos résultats, rendre compte de ce que nous faisons, et puis laisser monter les questions, parce que nous n'avons pas la vérité révélée, et nous devons être soumis à des questionnements, des interpellations. Voilà, nous voulons rendre des comptes et puis nous adresser aussi à la presse quotidienne, régionale, à tous les médias régionaux.
Jean-Marc Sauvé, au vu de tout ce que vous avez pu entendre jusque-là et de l'ampleur de ce que vous découvrez, qui est peut-être pas propre à la France, on sait qu'il y a des commissions identiques qui ont été mises en place dans d'autres pays, est-ce que vous avez l'impression que l'Église va devoir aller très loin, peut-être dans une forme de mea culpa?
Nous aurons d'abord à nous prononcer au-delà de l'état des lieux sur le diagnostic de ces affaires et le diagnostic de leur traitement ou de leur absence de traitement. Et nous en tirerons, nous, des conclusions sur les responsabilités non pas individuelles, mais les responsabilités collectives. Après, il appartiendra à l'Église catholique, bon, qui nous a mandatés, d'en tirer les conclusions qu'elle croit devoir tirer de ce que nous avons fait.
Mais ça, c'est évidemment...
Je voudrais insister sur un point très important, c'est qu'en même temps que nous menons ce travail de recueil de témoignages, d'exploration des archives, nous menons un travail d'audition des victimes, d'écoute des victimes. Nous en avons déjà entendu 16, nous avons mis en place un protocole d'audition. Ce sont des auditions prolongées, approfondies, qui sont conduites par deux personnes, un psychiatre, psychologue et, le cas échéant, donc soit un juriste, un sociologue, un spécialiste des politiques publiques, notamment de santé. Il y a un compte-rendu qui est élaboré, qui est soumis à l'assentiment de la personne que nous écoutons, et c'est un travail extrêmement important, extrêmement, je crois, salutaire, d'expression et éventuellement de réconciliation, en tout cas de rétablissement pour les victimes. En tout cas, c'est ce que nous espérons.
On va peut-être rappeler simplement maintenant le numéro de téléphone de la CIAS, c'est important pour ceux qui nous écoutent, 01, vous me dites si je me trompe, 01 80 52 33 55, c'est bien ça Jean-Marc Sauvé?
Oui.
Voilà. Et le mail, c'est victimes@cias.fr. On mettra évidemment tout cela sur le site de l'émission.
Merci.
On va passer, comme tous les vendredis à présent, à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hilla. À la une, la réforme des retraites qui fédère les mécontents, Emmanuel Macron et l'immigration, et puis des attaques contre la justice.
C'est un homme qui ne mérite pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qui ne se trompe pas sur ses revenus?
Vous êtes toujours tenté de placer votre argent à l'étranger. Qui n'a pas fait ça, hein?
On est sympathique, on est gâté comme c'est pas possible, les seniors, vous pouvez même pas savoir.
C'est très bien comme ça. Mais dites donc!
Il est le maire, on demande que ce soit un beau maire. Le reste, on s'en fout.
Bah oui, quoi. Patrick Balkany en prison après sa condamnation à 4 ans ferme pour fraude fiscale. Si certains habitants de Levallois dénoncent cette incarcération, d'autres au contraire estiment que la justice n'a fait que son travail.
C'est peut-être un très bon maire, mais c'est un escroc, donc c'est mérité. Vous feriez les mêmes bêtises, vous seriez en prison plus longtemps.
C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui et ça m'a fait de la peine pour elle et... J'espère qu'ils vont tenir le coup.
Nicolas Sarkozy, l'ami de 50 ans, fait part de son soutien. Mais il se garde bien de critiquer la justice qui a été mise en cause tout au long de la semaine.
Nous faisons l'objet d'un procédé politique d'exception.
Jean-Luc Mélenchon poursuivi devant le tribunal pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire. C'était il y a un peu moins d'un an. Le leader de la France insoumise avait opposé le bruit et la fureur lors d'une perquisition au siège de son parti.
Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi.
Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir parlé fort dans notre local? De s'être indigné d'une perquisition qui n'avait aucun fondement, si ce n'est des accusations sans preuve? Et clairement, on a senti, de manière quasi palpable, l'instrumentalisation politique de la part du pouvoir.
À Lyon, un juge a relaxé des décrocheurs de portraits présidentiels pour qui le chef de l'État ne fait pas assez en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La décision a surpris tout le monde, y compris les premiers concernés.
C'est un délibéré historique et inédit. Ce que ça veut dire, c'est que la légitimité de cette action est plus forte que l'illégalité du vol en réunion pour lequel on était accusé.
Historique et inédite également la convergence des luttes qui a eu lieu lundi dans les rues de Paris.
On se bat pour les justes retraites qu'on a mis des alliés à prostituer, qu'on nous vole, parce que c'est notre projet!
Côte à côte, des blouses blanches et des robes noires. En cause, la future réforme des retraites qui prévoit d'abolir les régimes spéciaux.
Si tu savais, ta réforme,
cotisation va être multipliée par deux et notre retraite divisée par deux.
Pas content, les avocats rejoints une fois n'est pas coutume par les médecins, les infirmières et les orthophonistes.
Ça met en péril la viabilité financière de nos cabinets.
Pas gagné cette réforme des retraites. Alors Emmanuel Macron demande à sa majorité de se mobiliser sur le thème de l'immigration car dit-il, il s'agit de savoir si nous sommes un parti bourgeois. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'étonne de ce changement de discours.
Je me souviens de ce moment où Il adressait à Mme Merkel ses félicitations parce qu'elle avait su accueillir au nom de l'Europe 1 million de migrants au moment où les Syriens fuyaient en masse leur pays d'origine.
Pourquoi remettre cette question au cœur des débats ? Serait-ce parce qu'en lançant sa campagne pour les municipales, cette semaine, Marine Le Pen n'a pas caché que son objectif restait inchangé ?
Dans les 18 prochains mois, 3 rendez-vous attendent les Français. Chaque scrutin doit permettre à notre famille politique d'accrocher un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet. Et le sommet, vous le savez, c'est l'Élysée.
On a commencé avec une affaire de justice, on va terminer de la même façon en rendant justice à Jeanne Calment que des Russes voulaient faire passer pour sa fille. Faux, répond le démographe Jean-Marie Robine.
Leur hypothèse ne repose strictement sur rien. Tout est balayé, enfin, il ne reste rien, il n'y a aucun doute.
Jeanne Calment est bien morte à 122 ans.
Est-ce que vous avez une recette pour vivre longtemps?
Je l'avais eu, je la donnerai sous le
bandeau. Voilà, je traduis, si j'en avais une, je la donnerais à tout le monde, cette recette. Une semaine en France, toujours en compagnie de Jean-Marc Sauvé, président de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, mais également vice-président honoraire du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé. Oui. Je le disais tout à l'heure, vous avez travaillé au ministère de l'Intérieur, vous avez travaillé au ministère de la Justice, vous avez exercé les plus hautes fonctions. J'aimerais savoir s'il y a des sujets qui vous font réagir dans l'actualité de la semaine, puisqu'il a beaucoup été question de la justice.
Oui, on a beaucoup parlé de la justice et de l'instrumentalisation de la justice, si j'ai bien compris. On n'a pas parlé que de ça, on a parlé aussi d'environnement.
Les critiques contre la justice, on est dans un pays où la fraude fiscale reste, on a l'impression, un sport national. On absout un maire qui est condamné pour ce genre de fait.
J'ai pas le sentiment.
Je parle pas de la justice, mais je parle de la population.
La justice, elle s'est prononcée. Dans la population, comme toujours, il y a des opinions divergentes. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est en train de progresser dans ce pays. Cette prise de conscience, c'est que la loi est la même pour tous et que personne n'est au-dessus de la loi. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est août 1789. C'est du passé, oui. C'est du passé, mais c'est du passé qui a mis et qui met énormément de temps à se traduire en actes. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le fait que tout le monde est responsable de ses actes et notamment de ses infractions à la loi face à la justice. Nous avons au-dessus de nous et vraiment en commun et en partage un pacte fondamental qui s'appelle la Constitution. Et cette Constitution, elle repose sur la séparation des pouvoirs. Il y a la souveraineté nationale, le peuple élit ses représentants au Parlement, il élit le président de la République qui est à la tête du pouvoir exécutif, mais en même temps, dans notre Constitution, il y a une autorité juridictionnelle ou des autorités juridictionnelles qui ont été institué. Il y a le Conseil constitutionnel, il y a le Conseil d'État et les juridictions administratives, il y a l'autorité judiciaire. Et là, l'autorité judiciaire s'exprime et c'est toujours un peu une surprise parce qu'on a pris tellement l'habitude de la subordination en réalité. On le voit tout au long du 19e siècle et pendant une partie du 20e siècle, de l'assujettissement de la justice à d'autres pouvoirs que cette indépendance surprend.
Alors, il y a une volonté, une revendication d'égalité. Demain, les Gilets jaunes seront à nouveau dans la rue. Il se trouve qu'une des réponses à ce mouvement qui a surpris pas mal de monde, ça a été de remettre en cause la suprématie des grandes écoles, et parfois même leur existence tout court, notamment la remise en cause de l'ENA. Alors, il se trouve que vous êtes passé par l'ENA, Jean-Marc Sauvé. Pour vous, supprimer l'ENA, supprimer le concours, ce serait une bêtise ?
Le mécontentement qu'expriment les Gilets jaunes a des racines extrêmement profondes dans notre pays. On pourrait passer une heure à débattre sur ce sujet. qui est un sujet de grande ampleur. C'est ce à quoi nous avons assisté au cours de la dernière année plonge ses racines dans les 3-4 dernières décennies. Il y a aujourd'hui une divergence croissante entre le discours politique qu'entendent les gens et ce qu'ils vivent. Et naturellement, c'est générateur de frustration. Et il faut absolument, absolument réconcilier le dire et le faire. Et c'est comme ça que la confiance publique pourra être refondée. Bien. Mais véritablement, je ne pense pas que la suppression de l'École nationale d'administration soit en quoi que ce soit une réponse pertinente aux problèmes nombreux qui ont été soulevés. Ce que je voudrais dire, c'est qu'avant l'ENA, l'administration et la haute administration se recrutaient par cooptation et elles se reproduisaient. C'était des gens des mêmes milieux. Il n'y avait pas de fils d'ouvriers, de paysans, d'artisans, de petits commerçants, d'employés qui rentraient à l'École nationale d'administration et qui rentraient dans la haute administration. Et donc l'ENA, c'est une grande conquête démocratique et l'ENA permet de donner à cette haute administration une formation commune, à la fois des savoirs, des compétences, mais un corpus de valeurs et de principes, une éthique du service public. Et ça aussi, c'est extrêmement important, et c'est un remède à un mal français qu'on connaît bien, qui est la division perpétuelle entre ministères, entre groupes, entre corporations, qui ont tendance à s'ignorer, à se combattre. Et justement, l'ENA, c'est le creuset qui a permis de déboucher. Eh bien, sur quoi ? La reconstruction de la France et la reconstruction de l'État après 4 années d'occupation, une défaite militaire absolument sans précédent et un abaissement matériel, une ruine matérielle et morale du pays. Et donc,
supprimer l'ENA ne serait pas une bonne idée.
Ce ne serait vraiment pas une bonne idée.
Jean-Marc, savez-vous, l'ENA, vous y êtes passé et vous avez bénéficié quelque part de cet ascenseur social, républicain, méritocratique, puisque vous venez vous-même d'une famille d'agriculteurs, vous n'étiez pas programmé pour occuper les plus hautes fonctions que vous avez pu occuper. Vous avez d'ailleurs, il y a une particularité, vous l'avez passé 2 fois le concours de l'ENA, vous l'avez réussi une première fois, ensuite vous êtes...
Non, je l'ai d'abord raté.
Oui,
puis je l'ai réussi.
Vous êtes modeste. Vous l'avez réussi. Vous êtes parti chez les jésuites pendant 2 ans. Puis finalement, vous êtes revenu et vous avez dû le repasser parce qu'on ne garde pas le concours de l'ENA. C'est comme ça que ça s'est passé ?
C'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Comme beaucoup de jeunes, je me suis posé la question du sens de mon existence. Et j'ai accordé à cette époque, j'avais entre 20 et 25 ans, une importance particulière à cette quête de sens et à cette quête de vérité. Et puis après, j'ai pensé que ma voie était différente. Mon objectif, c'est bien de changer le monde.
Le connaître pour le changer.
Le connaître pour le changer et le rendre, en fait, plus juste à encore la justice. Plus humain et plus fraternel. Alors, tout ça paraîtra bien simple et bien naïf pour des esprits forts, mais je dois dire que ça a été le moteur de mon existence et le moteur de ma vie professionnelle.
Et vous avez fait des choses formidables, Vous avez donc choisi le Conseil d'État à la sortie de l'ENA, puis ensuite vous êtes passé par différents ministères, notamment le ministère de la Justice, aux côtés de Robert Badinter.
Exactement.
Au moment de l'abolition de la peine de mort. Ça, c'est une de vos fiertés ?
Oui, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs professionnels. Je ne revendique aucun titre particulier. Je ne suis pas le responsable de l'abolition, mais j'étais là. J'étais un acteur, j'étais au banc du gouvernement, j'étais derrière le ministre. J'ai participé à la rédaction du discours et je me suis empressé de détruire mes projets de discours, ce que Robert Badinter me reproche toujours.
Ouais, vous les demandez toujours. Hein.
Voilà. Et c'est pour moi un très beau souvenir et une très grande fierté.
Alors, vous avez aussi été secrétaire général du gouvernement. On pourrait en parler là aussi pendant des heures, puisque vous avez connu 4 premiers ministres, Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin. Vous avez certainement des tas de choses à nous raconter, parce que vous connaissez connaissez parfaitement les rouages de l'État. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Je disais, c'est une drôle de retraite puisque vous vous occupez de la SIAZ, mais vous vous occupez aussi, et on va en dire un petit mot puisque vous allez devoir nous quitter un petit peu plus tôt ce soir. Vous vous occupez des apprentis d'Auteuil. Vous êtes le président de cette organisation, fondation catholique reconnue d'utilité publique. Pourquoi cet engagement, Jean-Marc Sauvy? Parce que c'est la jeunesse, c'est toujours ça qui vous intéresse?
Oui, exactement. Le fil rouge de ma vie aujourd'hui, c'est de servir la cause des jeunes et en particulier des jeunes les plus vulnérables. Alors au fond, ce que je fais à la commission indépendante sur les abus sexuels, c'est au fond de suivre, d'aider, de tendre la main à ceux qui ont subi des abus et qui ont subi les traumatismes qui vont avec ces abus. Mais également, je veux me consacrer aux jeunes qui connaissent les difficultés les plus lourdes, qui sont des difficultés familiales, scolaires, sociales. Et nous venons au soutien de 27 000 jeunes chaque année et de plus de 5 000 familles. Et ce que nous faisons, eh bien, c'est de faire confiance aux jeunes, de leur rendre l'estime d'eux-mêmes et de construire avec eux leur avenir. Et je peux vous dire que pour des jeunes qui ont été regardés comme des cas sociaux, dont il n'y avait rien à attendre, rien à tirer, qui ont été exclus de tous les établissements scolaires qu'ils ont fréquentés, les mettre dans un parcours de formation et les aider et les appuyer pour qu'ils construisent leur avenir, c'est certainement, j'allais dire, la plus belle récompense qu'on puisse recevoir.
Voilà, vous êtes donc à la tête des apprentis d'Auteuil. On aurait pu aussi parler de la Cité internationale universitaire que vous présidez, les comités d'éthique des JO de Paris 2024. Jean-Marc Sauvé, vous avez un emploi du temps de ministre, même à la retraite. D'ailleurs, j'ai noté que vous n'aviez pas franchi le pas hein, pour devenir politique vous-même. En tout cas, vous avez un emploi du temps très chargé. Vous nous avez demandé de pouvoir nous quitter un petit peu plus tôt. Alors, on fait une exception ce soir et on va vous laisser partir plus tôt que prévu. Un grand merci Jean-Marc Sauvé d'être venu
merci.
Ce soir
merci beaucoup.
Sur France Inter. Merci à vous. Et puis de toute façon, vous reviendrez nous parler des travaux de la SIAZ à la prochaine étape des travaux de cette commission.
Très volontiers.
Merci beaucoup et à très bientôt. On va écouter à présent Angélique Kidjo.
Non te va bien retourner, non te va bien louer l'eau. Mia rue mia rotona se lo lo ya ova mi duelo no viva mia ilo va no viva rotone ase e alo lo no vie no viva rotto agbe yawo no viva rotto agbe yawo no viva mia ilo agbele tekpo o mia ila mia ilo vivida na mesia me tom 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 va no te va mi mia no to nace no te va mia duelo mia due mia no to nace no lo ya ova mi duelo no viva mia ilo va no viva roto ne ase e alo lo no via no viva roto agwe yawo no viva roto agwe yawo no viva mia ilo agwele tekwa wo mia ila mia ilo vivida na me si ame non non va non 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 ne ca non 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 va non 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 ne ca la te ame non 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 vivere via mia no tu se sere mia luelo non ne via con non 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 va non ci gioeda e mo mia na me si ame da no cucu cu do vivi lo lo fa faro Messia me le va bilai ci giù moni America vedo ma vuoi giù famiglio famiglia.
Lon Lon, Angélique Kidjo, une chanson inspirée évidemment du Boléro de Ravel, choix musical signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
18h52 sur France Inter, l'heure des bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous nous faites découvrir un restaurant inattendu qui fête ses 50 ans ces jours-ci.
Je vous emmène place de la Madeleine, plein cœur de Paris. Entre midi et deux, ça grouille, ça klaxonne, les restaurants sont bondés. Alors si vous voulez vous poser au calme, bien manger à moins de 10 euros, eh bien vous traversez la place, vous contournez le marché aux fleurs et vous vous engouffrez par une petite porte toute discrète à l'intérieur de l'église de la Madeleine.
À l'intérieur de l'église ?
Oui, juste en dessous, la nef de la Madeleine est à l'étage. En fait, le restaurant se situe au rez-de-chaussée.
C'est quoi exactement ce restaurant ? Il est ouvert à tout le monde ?
Tout le monde, tout âge, toute profession, toute confession, c'est même recommandé, vous allez voir. On y mange une cuisine familiale, on est servi par des bénévoles. Tout sourire, ça change. Et puis dans un cadre surtout complètement dingue, faut le dire, on est quand même dans la crypte de l'église.
Alors direction le foyer de la Madeleine, vous m'avez dit une petite porte à droite de l'église, c'est bien ça ?
Promis, pour leurs 50 ans, ils vont mettre une belle pancarte. En attendant, Laurence confirme, elle n'aurait jamais trouvé si un ami ne l'y avait pas emmené. La jeune femme vient de rentrer. Elle hallucine.
On arrive donc dans un dédale de couloirs. C'est assez surprenant, c'est très étroit. On se retrouve sous les voûtes comme ça, c'est improbable. On ne s'attend pas du tout à ce que ça existe même dans Paris.
Laurence devra passer par la caisse ici, on paye à l'entrée. Et là aussi, on hallucine quand le président du foyer nous tend le ticket.
9 euros, une entrée, un plat, un dessert, qu'on soit modeste, cadre supérieur, ouvrier, 9 euros. Maintenant, il y a une ambiance très particulière. Ici, on n'arrive pas avec son portable, son téléphone, on s'installe à une table et on dit « foutez-moi la paix, je viens pour bouffer ». Non, c'est pas ça. Vous êtes à côté d'un banquier, d'un ouvrier ou d'une vendeuse, comme une table d'hôte.
Vous servez plus de 300 repas par jour.
Ben c'est l'ambiance. Vous n'êtes pas dans une ambiance où le serveur fait son boulot, mais attend le suivant pour remplir les caisses. Nous, c'est pas ça du tout. Et puis, on partage tout, les bons moments comme les mauvais moments.
Exemple.
Tu connais pas un avocat qui et comment dois-je faire dans ce cas-là ? On fait jamais ça dans un restaurant et puis nous, on répond.
C'est ça le foyer de la Madeleine.
C'est ça le foyer de la Madeleine.
Et c'est pour ça qu'on l'aime. Raymond, 87 ans, fidèle de chez Fidèle et toujours à la même table.
Il y a très longtemps que je viens, depuis 1985 peut-être.
Tous les jours ?
Oh, pratiquement, oui. Bah, vous savez, j'habite dans le 20e, près de la place Gambetta, donc avec le métro.
Mais pourquoi ici ? Il y a plein de restos dans le 20e.
Il n'y a pas de restaurant comme ici, en 20e, ça n'existe pas.
Collé à Raymond, deux hommes d'affaires en pleine discussion.
Bah, on déjeune et on mange bien. La bonne cuisine familiale.
Oui, vous avez trouvé ça comment ? C'est quand même pas banal comme resto.
Non, c'est un endroit qui est très convivial. Moi, j'aime beaucoup. On est servi à table dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le reste du quartier.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire qu'ici, on a de la dimension humaine. Voilà, il y a un peu de chaleur.
Et vous l'avez connu comment ? Parce que c'est quand même relativement caché.
Alors, c'est assez confidentiel, c'est de bouche à oreille. Chaque fois que moi, j'ai des collègues de travail, à chaque fois, je leur dis : est-ce que tu connais le cercle de la Madeleine ? Non. Alors, viens avec moi, je vais te montrer. Et une fois qu'ils ont appris à le connaître, ils reviennent.
Le côté aussi, je mange sous la Madeleine, c'est quand même pas mal aussi.
Mais ça explique sans doute pourquoi il y a beaucoup de dimensions humaines ici. Chère madame.
Table d'en face.
Pour pas faire trop de publicité pour un endroit aussi sympa, parce que finalement, après, on fait la queue, madame.
Fabienne, elle travaille dans le quartier.
Ça, c'est mon collègue, ma collègue, et ça, c'est une pièce rapportée.
Merci, ça fait plaisir d'être une pièce rapportée.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on fait des connaissances. Moi qui mangeais tout seul à l'époque, j'ai fait connaissance de monsieur. Ce monsieur travaille avec ces personnes-là, et du coup, bah, je mange avec eux, au lieu d'être tout seul dans mon coin.
Et pourquoi pas avec le curé de la Madeleine ? Il vient tous les jours ou presque, même parfois pour donner un coup de main.
Oui, oui, je viens rendre service. Je viens plus souvent déjeuner, mais enfin, j'essaie de m'y tenir.
Qu'est-ce que vous aimez ici, au-delà du fait que c'est tout près ?
Je crois que c'est une vraie pause pour les gens de venir ici.
Pour vous aussi, c'est une pause ?
Oui,
On vous parle pas de Johnny, là? Là, au moins, on vit chapeau la paix là-dessus.
Voilà.
Allez, bon appétit.
Merci.
Quant aux serveurs tous bénévoles, eux aussi s'y nourrissent.
On a un magistrat à la Cour des comptes, qui a été à la Cour européenne des comptes. Alors, on discute des finances de la France. Et puis, un jour, c'est le défenseur des droits, parce que les bureaux sont à côté. Là, il y a un gars qui est un Britannique et qui est courtier en assurance et qui vient tous les jours. On discute de Boris Johnson avec lui. C'est incroyablement varié.
Et le foyer de la Madeleine, c'est aussi l'incontournable Lily, la préposée aux tasses à café.
Les gens, ils ont besoin de chaleur. Allez, bon café, mon chéri.
Vous avez combien de chéris?
Bah, tous les clients. Merci, mon chéri.
Vous venez souvent, monsieur?
Moi, ça fait 25 ans que je viens à peu près.
Et Lily?
Elle est fantastique. C'est quelqu'un qui met de l'ambiance. C'est quelqu'un de chaleureux.
Bah ouais, pourquoi? T'as déjà vu dans les cafés?
Quoi, y a pas de sourire?
Bah non, y a rien. Ah, mon chéri.
Oui. Encore un chéri.
Qui n'est pas le chéri de Lily?
Tiens, mon chéri.
C'est le rayon de soleil quotidien, Lily.
C'est l'une des raisons supplémentaires pour que on vient. C'est pour elle. Parce que sans elle, un jour est triste. Il ne manque plus que Gabin qui arrive, et c'est bon, là. Et ils se font la réplique.
Viens pour mes beaux yeux. Au revoir, mon chéri, à demain.
Et vous, Lily? Vous, ça vous apporte quoi? Parce qu'on parle que de la clientèle, là.
Leur gentillesse.
Comment vous êtes vous retrouvez là?
C'est ma nièce qui m'a trouvé ça. Elle a bien fait. Parce que je commençais à sombrer, moi.
C'est-à-dire?
À la retraite. Combien de café, les mecs? Alors, deux cafés.
Sombrer, ça veut dire quoi? C'est rester seul?
Sombrer, oui, ben sombrer, je commençais à tomber. Je voulais plus sortir, je voulais plus prendre les transports en commun. J'avais peur.
Vous alliez mal?
Ben, j'allais très mal. Le foyer, c'est tout. Moi, ça m'a sauvé ma vie, moi. Et vous buvez votre café ensemble?
Est-ce que je peux vous demander votre âge, Lélie?
Ouais, 76 ans, ma chérie.
Tenez.
2 euros, mon chéri, merci. Moi, j'ai plein de copines qui ont mon âge, qui ont mal au genou, qui ont mal au coude. Je leur dis, ben, viens la Madeleine. Ben ouais.
C'est un Médoc, quoi.
Ah ouais. Ici, c'est le pied, en dessous une église. Tu te rends compte? On est bénis. Voilà, ma chérie, tu diras bonjour à tes copines et à tes copains.
Oh, merci Sandrine pour ce rayon de soleil. Il y a une petite cotisation à verser à l'association si on veut y aller?
7 euros par an, c'est pas énorme. C'est même pas le prix d'un croque-monsieur dans le quartier. Et ça permet surtout à des personnes en grande difficulté d'aller y manger elles aussi pour 1 euro symbolique.
Oh, un grand merci Sandrine. La Madeleine a un lieu à découvrir. On aura plein d'autres tout ce week-end à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Au revoir mon chéri, à demain.
Alors là, ça fait toujours plaisir. Après le journal de 19h de Pierre Veil, il y aura le téléphone sonne consacré ce soir à la privatisation d'aéroports de Paris. Et cette question, faut-il un référendum sur le sujet? 01 45 24 7000.